Important de pas passer trop vite sur ce qui a précédé cette naissance. Puisque Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, tient toutes choses entre ses mains. Dieu a tout pouvoir, toute autorité sur la terre comme dans les cieux. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que la parole de Dieu nous rapporte par rapport à la venue de Jésus, la manière où Dieu a conçu les choses d'une manière incroyable, une manière que l'homme ne peut pas ni réaliser par ses propres moyens, une manière qui permet en réalité aux hommes pas seulement d'entendre, mais aussi de se laisser convaincre par le projet de grâce et de miséricorde de Dieu. Un plan qui vient d'en haut et non pas des plans qui viennent d'en bas. Nous, on est souvent champions pour faire des plans et les proposer à Dieu en disant « Seigneur, voilà le plan, bénis-le ». Excusez-moi de dire que c'est beaucoup plus sage, beaucoup plus sensé. Je dirais même, ça porte beaucoup plus de fruits quand on dit « Seigneur, donne-moi tes plans pour que je les exécute ». Parce que dès que c'est les plans de Dieu, ça marche. Et puisque ça marche, je m'assure de la présence de Dieu dans ma vie. Et si je prends mes plans et je dis à Dieu « Vas-y, bénis mes plans », Dieu va nous dire « Écoute, tes pensées ne sont pas mes pensées. Mes projets sont bien plus grands que tu puisses, toi, dessiner sur un bout de papier. » Amen. La parole de Dieu nous invite ce matin à partager un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 26 qui dit « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi a un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien est impossible à Dieu. » Marie dit « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen. Le texte nous invite à une première réflexion, c'est qu'il y a le temps de Dieu. Dans le livre de Ésaïe et aussi dans d'autres livres prophétiques, nous avons l'annonce de la venue d'un Messie. Nous avons un appel de la part de Dieu, un message de la part de Dieu pour le peuple qui vit dans les ténèbres, à s'attendre à celui qui est la lumière. Jésus dira « Je suis la lumière ». Qu'est-ce qui se passe quand la lumière rentre dans une pièce qui est sombre? Même si c'est une petite lumière, ça éclaire. Quand vous vous levez la nuit, si ça vous arrive, la moindre lupiote, la même petite ampoule, vous savez, qui reste en veille d'un appareil, ça vous permet de vous repérer, n'est-ce pas? Et en effet, on est attentif à ces petites lumières, et je dirais que plus on grandit, pas qu'on prenne de l'âge, on grandit, plus on se dit c'est bien d'avoir des petites lumières à droite, à gauche, c'est des petits repères, hein, si au cas où je continue à dormir même en marchant. La volonté de Dieu, c'est que notre marche ne soit pas dans les ténèbres, mais qu'à un moment particulier, nous puissions en réalité réaliser que Dieu a mis pour nous un repère éternel qui est Jésus-Christ. Dans le temps venu, Dieu va agir d'une telle manière où il va présenter celui en qui il a mis toute son affection, son Fils, Jésus. Le plan de Dieu, c'est sauver l'humanité. Les hommes pensaient que par les lois, par des règles, par, je dirais, une décision personnelle seulement, ou par des sacrifices personnels, on puisse se sauver. Ça n'a pas marché. On a tendance généralement à aller outre la loi. Prévenez quand on conduit. Non ? On a du mal, là. On a du mal. Il y a plein de choses qu'on se dit, Seigneur, allez, ferme les yeux, 30 secondes, hop. Hein ? Mais on est des êtres humains. On est des hommes avec leurs faiblesses, leurs fragilités. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a préparé un plan de salut qui commence à se décrire dès la Genèse. Dieu enlèvera la vie à un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Premier sacrifice. Sans le sang versé, il n'y a pas de pardon. Et pour le salut des hommes, comme le péché est rentré par un homme, il fallait qu'il y ait un homme sans péché. Et ça, pour qu'il soit sans péché, il fallait qu'il soit, oui, un homme, mais aussi pleinement Dieu. Il fallait la personne de Jésus-Christ. Parce que malgré toutes nos bonnes convictions, nos bonnes pensées, nos bonnes réflexions, il n'y a pas un jour où on ne commet pas de péché. Si ce n'est pas par nos pensées, ça peut être par nos yeux, par nos sentiments, par plein de choses, n'est-ce pas ? Et même si on s'enfermait dans une boîte, même là, pourquoi ? Parce que le péché il s'est inscrit à cause du péché d'Adam et Ève au plus profond de notre vie. Dieu choisira d'agir d'une manière incroyable. Donc, il fera œuvre d'envoyer, comme dans sa parole il l'a dit, il va envoyer un messager qui va préparer le chemin de Jésus. Et celui-ci, c'est Jean-Baptiste, né d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, dans des circonstances bien particulières, parce que déjà âgé. Quand on est jeune, on s'attend à avoir des enfants. Alors imaginez la surprise d'Élisabeth à recevoir la visite d'un ange qui lui dit « Tu vas avoir un enfant. »« Ah bon ? Attends, je vais voir mon mari. » Elle va voir son mari, il dit « Écoute, un ange m'a dit, écoute, quand il revient, dis-le-moi, je vais lui parler, moi, parce que je voudrais comprendre. » Et en réalité, telle sera l'attitude du cœur de cet homme et de cette femme qui étaient juste devant Dieu. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas leur mettre, excusez-moi, une étiquette. Mais comprenons bien qu'à un certain âge, ils pouvaient bien se poser des questions et dire « Est-il encore possible, Seigneur ?» Et à cause de son incrédulité, ou dans tous les cas du doute qui pouvait toucher à ses pensées, il deviendra muet. Par contre, Dieu lui dira comment il doit appeler son fils. Jean. Alors, grande surprise, parce qu'il n'y avait pas de Jean dans sa famille. Vous savez, cette tendance à mettre le nom des grands-parents. Combien porte le nom des grands-parents ? Levez la main. Il y a des prénoms et des noms qui sont beaux. Il y a des noms, c'est compliqué à porter. Moi, j'en ai un, mais je ne voulais pas. C'est compliqué, je me suis battu toute ma vie avec ce prénom. Je voulais même aller au tribunal pour le faire enlever. Ma mère m'a dit, écoute, ça va te coûter cher, laisse tomber. Fais semblant de rien. S'il ne te plaît pas, tu mets juste un C, point. Je ne saurai pas la suite, C, point. Il est question, en réalité, pour Dieu de montrer qu'il est aux commandes de toutes choses, même de la nature humaine, avec ses faiblesses et ses fragilités, voire même avec ses défauts. Élisabeth, elle est au sixième mois. Et comme si déjà ça, ce n'était pas suffisant comme miracle, comme action de Dieu, Dieu pas seulement envoie le messager, mais il envoie aussi le Messie, le Sauveur. Et dans sa parole, il avait établi que l'enfant naîtra d'une vierge. Et il y a un moment, dans ce texte que nous venons de lire, cette rencontre, à partir du verset 26 au verset 30, où un ange vient rencontrer Marie et il va tenir un discours avec elle qui va nous donner des détails aussi de la vie de Marie. Jusque-là, on ne connaissait pas ni Marie ni Joseph. Et là, d'un coup, on nous décrit en effet que l'ange se présente auprès de Marie et il nous dit dans son portrait sa condition morale. Était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme, elle était pure. Sa condition de vie, elle était fiancée, donc engagée au mariage avec un dénommé Joseph. Il faut savoir que dans la culture juive, l'homme et la femme étaient fiancés ou promis l'un à l'autre pendant une certaine période de temps avant que le mariage soit célébré et consommé. Célébré et consommé, pas l'inverse. Cette promesse était beaucoup plus lourde de sens que ne le sont les fiançailles d'aujourd'hui, car les personnes étaient considérées comme mari et femme, sauf qu'elles ne vivaient pas ensemble avant le jour du mariage. C'était un engagement, c'était fort, c'était plus « on va réfléchir ». Non, on est déjà engagé. D'ailleurs, vous comprenez bien dans la lecture aussi de la suite, quand Joseph aura la nouvelle, qui va se dire, ben, compte tenu de la situation, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, jusqu'au moment où l'ange lui parlera. Et son cœur comprendra que c'est le plan de Dieu. Sa condition familiale, il nous dit le texte qu'il était de la lignée du roi David. Et ça, ça nous ramène à la promesse que Dieu avait faite à David, en disant, il y aura toujours un de ta descendance sur le trône. Dieu, quand il fait les promesses, il les fait jamais à la légère. Et il nous parle aussi de son identité, Marie, ou dans certaines traductions, Myriam, dont la signification est plutôt particulière, qui veut dire rébellion. Waouh ! Vous savez que les Juifs ne donnent pas le nom tout de suite, le prénom tout de suite. Il y a un temps, et le nom est donné au moment de la présentation. Et en effet, le prénom est très souvent lié à l'attitude ou aux événements qui ont précédé ou peut-être le caractère de l'enfant. Est-ce que Myriam a été peut-être à un moment rebelle? On ne sait pas. Reste le fait que sa vie a subi une transformation, un changement, à tel point que Dieu va la choisir pour être une servante. Le texte du message est important, puisqu'il est question pour nous d'examiner exactement quelle est la pensée de Dieu. Je te salue. Ça veut dire je te dis réjouis-toi, c'est un bon et heureux jour. Merveilleux. C'est comme nous quand on se voit, on se dit bonjour. C'est pas juste un bonjour. Il faudrait que ce soit un heureux jour. On dit à quelqu'un qu'il soit pour toi une bonne journée. Et j'ai vu ce matin, vous vous êtes souhaité les uns les autres une bonne journée. Considérons le poids de nos mots, de nos propos. Quand nous le faisons, il continuera en disant « Toi à qui une grâce a été faite, Dieu t'a fait un honneur particulier, tu es le sujet particulier de sa grâce. » Et ce qui a attiré mon attention, c'est que le mot « grâce », comme il est utilisé dans ce texte, on ne le retrouve qu'une deuxième fois dans tout le Nouveau Testament. Ce n'est pas le même mot « grâce » qu'on a partout. Ce mot-là, il se trouve que deux fois, la première dans l'annonce de la naissance de Jésus, le deuxième se retrouve en Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 6. Et c'est intéressant de le lire parce qu'il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En effet, le message de grâce et le regard de grâce que Dieu a eu pour Marie, il l'a eu pour tout et il l'a pour tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de particularité. Il n'y a pas de plan, de mesure. Mais on voit qu'un mot pour Dieu, c'est un mot. Il nous place dans ce contexte où nous aussi, puisque Dieu a préparé pour nous un sauveur merveilleux, il nous a accordé une grâce incroyable. Amen. Le Seigneur est avec toi. Alors là, cette salutation m'a beaucoup interpellé, puisque en regardant dans la parole de Dieu, il y a d'autres personnages qui ont reçu cette salutation. Et c'est pour cela que Marie va être étonnée de ce discours. Pourquoi ? Parce que cette forme de salutation, puisque le devoir de tout juif, c'est le devoir de la mémoire, et il est question pour les parents d'enseigner les enfants de ce que Dieu a fait, il est question de se rappeler par exemple de Isaac. Genèse chapitre 26, verset 24, il entendra Dieu lui dire, l'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, sois sans crainte, car moi, je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Et c'était dans ce moment où il devait recreuser les puits. Vous vous rappelez ? Si ce n'est pas le cas, reprenez la lecture, c'est super. Ce même discours, « Je suis avec toi, puisque le Seigneur est avec toi », c'est l'annonce qu'elle a eue. Ben, Jacob aussi l'a eu. En Genèse 28, 15, il est écrit, « Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. » On continue plus loin. Moïse, Exode chapitre 3, verset 12, Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » On continue encore, Gédéon, lui aussi, chapitre 6, verset 12 des Juges, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Waouh. Jérémie, lui aussi, chapitre 1, verset 8 et 9, « Ne les crains pas, car je suis avec toi. » Pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Autant de personnes qui ont eu un appel pour une circonstance et une situation bien particulière, et ils ont été des serviteurs de Dieu. Point. Au même titre, nous aussi, nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu, puisque Jésus nous dit, « Je serai avec vous. » Amen. Marie, elle est étonnée de cette salutation, et elle se pose bien des questions. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Le fait que Dieu porte son attention sur nous, frères et sœurs, c'est une grâce. Et la grâce est un cadeau immérité et impossible à acquérir par nos propres moyens et encore moins par nos propres efforts. C'est un cadeau, mais aussi un honneur. Et je crois qu'il est important, et Marie, elle est consciente du cadeau, de la grâce, mais aussi de l'honneur et de la responsabilité d'agir comme un serviteur, comme une servante de Dieu, comme tous ceux qui l'ont précédé. Néanmoins, il est question de comprendre en quoi. Alors là, c'est toute une autre histoire. D'ailleurs, il lui dira, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » En réalité, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est que ce Dieu créateur, ce Dieu qui dit et la chose devient, ce Dieu qui n'a pas de limite, ce Dieu qui n'a pas de problème à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, a décidé que, a prévu que. Et en réalité, Marie est mise au courant de la situation, mais Dieu n'agit pas sans notre volonté, sans notre désir d'être des instruments, des serviteurs et des servantes. L'explication, elle est très courte, mais très forte, puisque l'ange lui parlera de six choses au sujet de l'enfant. Première chose, tu l'appelleras du nom de Jésus, qui veut dire l'Éternel est salut. Encore une fois, ce n'est pas le papa qui décide le prénom. Il n'y avait pas forcément de Jésus dans la famille de Joseph le charpentier. Mais là, Dieu en a décidé. Si un était un messager, l'autre, c'est l'Éternel est salut. Le messager, le message. Il sera grand. Waouh, magnifique. Il sera appelé fils du Très-Haut, entre guillemets, l'égal de Dieu, copie carbone. Qui a connu le papier carbone? Les nouvelles générations ne connaissent pas forcément cela, mais c'était une feuille qu'on glissait entre deux feuilles de papier quand on utilisait les machines à écrire. Il y a quelque temps, mon fils m'a dit « Qu'est-ce que c'est cette boîte ?» Alors j'ai récupéré la machine à écrire que ma mère avait offert à mon père à leurs fiançailles. Ah, vous voyez, hein ? C'est une relique, ouais, ouais. Je me dis que peut-être un jour, ça va me payer le voyage de noces avec ma femme. On ne sait jamais. Mais c'est surtout une valeur sentimentale, pas financière. Et quand j'ai ouvert la boîte, il dit « Waouh, que c'est beau, j'ai jamais vu ça !» J'ai dit « Eh ouais, ça c'était un autre temps. C'était avant. » N'est-ce pas? Et on glissait en effet une feuille carbone au milieu de deux feuilles pour que quand on écrive, ça fasse plusieurs copies. Alors on trichait, des fois on mettait trois, quatre feuilles, histoire de ne pas devoir recopier. Par contre, s'il y avait une erreur, ce que l'ange est en train de lui dire, c'est que il sera la copie carbone de son père. De son père. Celui qui possède les qualités de son père. Dieu lui donnera le trône de David. Dans sa qualité de descendant de David, il s'assiera sur le trône de David pour régner pendant le millénium. Et encore, il va plus loin. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. En effet, le règne de Jésus sur la nation d'Israël commence au début du millénium et se poursuivra d'éternité en éternité. Son règne n'aura pas de fin. C'est le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, on peut comprendre qu'à un certain moment, Marie, suite à ce message, qui lui dit « Tu enfanteras un enfant qui est l'enfant et le fils de Dieu. » Et regardez bien, ce n'est pas Jésus et ce n'est pas la mère de Dieu. La traduction exacte lui dit « C'est le fils de Dieu. » Comment-il un être humain pourrait engendrer quelqu'un d'éternel? C'est compliqué. C'est comme à vouloir expliquer qui est né d'abord, l'œuf ou la poule. Si vous avez la solution, je vous attends. Mais elle dira, Seigneur, et là c'est le côté humain, normal, la question qui est posée, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Comment? Comment? L'ange lui dit et lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. Alors là, grande surprise. Personne ne savait qu'Élisabeth attendait un enfant. Elle s'était même cachée. Imaginez la vie d'Élisabeth, une femme qui n'avait pas pu avoir d'enfant, donner d'enfant à son mari, considérée comme quelqu'un de stérile au regard des uns et des autres. C'était comme un manque de bénédiction sur la maison qui était la sienne. Mais Dieu ne oublie personne. Néanmoins, Élisabeth et son mari sont restés fidèles à Dieu. Et Dieu regarde à la fidélité de nos cœurs. Amen. N'ayez pas peur de rester fidèles, même si vous ne voyez pas tout de suite la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et il attend en réalité pour que nous soyons conscients que c'est un miracle de Dieu et que ce n'est pas la main de l'homme. Il est question pour Élisabeth, puisqu'elle a ton enfant et qu'elle est au sixième mois, après par la suite de recevoir la visite en effet de Marie, et elles prendront du temps ensemble, il y a quelque chose qui va se passer, mais on en parlera la semaine prochaine. Mais ce qui est important, c'est que dans cette explication de l'ange, dans ce cœur à cœur, dans ce dialogue, au verset 37, on lit cette phrase qui est une réponse à comment. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois ou une autre de dire à Dieu comment ? Comment, Seigneur ? Comment ? Voire même, pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Seigneur, comment tu vas faire ? Et la réponse de l'ange, c'est, et c'est une réponse aussi pour nous, rien n'est impossible à Dieu. Marie donnera une réponse. Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Dieu nous parle à nous tous. Et si on considère que la parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions pas seulement la recevoir, mais aussi la vivre, rentrer dans le projet de Dieu, est-ce que notre réponse est la même ? Seigneur, fais ce que tu as disposé de ma vie. Peut-être que ce matin, vous vous attendez un ange, et du coup, vous n'avez que moi. Je suis désolé, je ne sais pas voler. Néanmoins, vous savez, Dieu s'est servi de plein de situations pour parler aux hommes, et quelqu'un vient de le dire, même d'un âne. Je vais réfléchir. Est-ce qu'il y a un rapprochement ? L'important, ce n'est pas le messager. Parce que l'ange, il repartira. C'est fini. Il a accompli sa mission. Il a été juste, excusez-moi, quelqu'un qui a apporté un message. C'est quelqu'un qui a dit quelque chose à un moment particulier. Mais pour autant, il n'est pas Dieu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après de la parole de Dieu ? Comment on saisit cette parole de Dieu dans notre vie ? Et est-ce qu'on a cette même attitude de dire « Voici, je suis la servante, je suis le serviteur de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. » La parole de Dieu nous invite à considérer que quand Dieu a envie d'agir dans notre vie, il se sert du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes invités à être attentifs, mais aussi réceptifs, et je dirais même humbles devant l'action du Saint-Esprit. Nous laisser couvrir par Dieu, couvrir par sa puissance, couvrir par son sang qui nous purifie, ça veut dire pour nous d'accepter aussi de nous mettre sous son autorité. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous pourraient croire qu'il y a des choses qui ne pourront pas se réaliser. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le mot Noël veut dire naissance. Et quand on parle de naissance, excusez-moi, on parle de la naissance de celui qui a tout transformé. D'ailleurs, il y a un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Il a marqué tellement l'histoire que personne ne puisse dire « non, ce n'est pas vrai ». Alors une fois, un professeur avait dit à ma fille, il dit « non, c'est pas Jésus, ça n'existe pas, c'est un historien, un prof d'histoire, à ma fille ou à mon fils, un des deux ». Revenu à la maison, il m'a dit « papa, le prof, il a dit ça, ça, ça et ça ». Je lui ai dit « tu offres une Bible et tu lui dis de la lire ». Et après, autant que prof d'histoire, qui m'explique comment ça se fait qu'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Ce n'est pas que Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est bien particulier parce que des Jésus, si vous allez maintenant au Mexique, vous en trouvez des Jésus. Vous allez en Espagne apparemment aussi, non ? Mais des Jésus-Christ, même si on a, de temps en temps, ils se disent « je suis », mais une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. c'est le seul qui soit mort et ressuscité. Alors certes, frères et sœurs, Marie a été un instrument entre les mains de Dieu, quelqu'un digne de recevoir la parole, mais aussi prête à la vivre. De la même manière, chacun d'entre nous, puisque nous avons été placés au bénéfice de la même grâce, au bénéfice du même Seigneur, du même Dieu, nous sommes appelés pas seulement à recevoir la parole, mais aussi à la vivre. Est-ce que Jésus vit dans nos cœurs? Est-ce qu'on considère cette période comme une occasion de dire aux autres, Jésus est né? Même, il est mort pour toi et pour moi. Même, il est ressuscité. Même, il reviendra bientôt. Amen. Quelle grâce. On va fermer nos yeux. On va incliner nos têtes. Encore ce matin pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas vivre une histoire, mais nous voulons vivre avec le Dieu qui écrit l'histoire. Seigneur, encore ce matin, ta parole nous montre l'attitude qui doit être celle des cœurs, de se rendre malléable, d'être, Seigneur, enseignable, et surtout, Seigneur, de mettre en pratique et d'agir selon ton cœur et ta volonté. Seigneur, dans ta bonté, tu as choisi tout au long de l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes, tu les as appelés à accomplir une œuvre pour toi. Et Seigneur, encore aujourd'hui, nous aussi nous sommes appelés à accomplir une œuvre qui est aussi un moyen, Seigneur, d'apporter un message à la génération qui est la nôtre. Seigneur, nous aussi nous sommes appelés, Seigneur, à cette même merveilleuse grâce de pouvoir appeler le Fils de Dieu, Jésus. Et puisque ta parole nous dit que celui qui croira en lui sera sauvé, Seigneur, nous voulons confesser, Seigneur, encore que Jésus, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Seigneur, tu as mis sous son autorité et entre ses mains tout pouvoir pour sauver, pour libérer, pour guérir, pour pardonner. Seigneur, aucun être humain pourrait accomplir une telle œuvre. Seigneur, et c'est que, en vertu de ce sacrifice merveilleux. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci de nous avoir donné un Sauveur si glorieux et si merveilleux. Merci parce qu'à un moment bien précis, tu as permis que nous puissions entendre ton message et nous puissions le recevoir dans nos cœurs. Merci parce qu'il y a un moment particulier où la foi véritable est née dans notre cœur et c'est Jésus qui la porte. C'est lui qui accomplit la foi dans notre vie. Et par l'action du Saint-Esprit, tu as transformé nos vies et tu continues de le faire, Seigneur. Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu as préparé pour nous d'avance. Seigneur, nous ne voyons qu'un petit peu du projet, mais ton projet est bien merveilleux, glorieux et nous dépasse. Seigneur, nous attendons ton retour et nous savons que tu accompliras selon ta volonté. Et Seigneur, à toi en revient toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.